Auditrice, auditeur, bonjour, c'est l'heure de monter le son de votre autoradio, de votre smartphone ou même de votre télé. Il en faut pour tous les goûts au moment de lancer ce nouvel épisode de votre podcast inclusif des portraits pas très carrés. Régler le son de l'autoradio, un jeu hautement maîtrisé par ma co-animatrice carrément pas très voyante, vu que c'est le seul élément avec lequel elle peut jouer en voiture. Et pour tout dire, c'est assez heureux. De la voiture au karting, il n'y a qu'un clin d'œil qui nous a conduit à nous installer au milieu d'une piste de karting pour cette nouvelle émission. J'ai dit clin d'œil, ah bah oui, et hop, encore une locution qui n'est pas sans m'amuser sur ce podcast. Et m'amuser avec qui? Mais avec la prunelle de mes yeux, bien sûr, j'ai nommé Morgane Legrand.
Et celui dont on ne sait pas toujours très bien où il va, et pourtant on le suit avec une confiance aveugle, j'ai nommé Alain Guillotin.
Que de mots qui me font sourire, Morgane. Ce n'est pas encore aujourd'hui que je vais regretter d'être installé en face de ton canapé d'intervieweuse. Mais dérapons tout de suite sur notre invité du jour pour brosser un premier portrait de ce dernier. Le micro t'appartient, Morgane.
Oui, aujourd'hui nous sommes donc au karting de Chartres avec Thierry Picard qui est entre autres créateur et gérant de ce très beau karting mais aussi business developer et adepte du partenariat et du bénévolat. Thierry, bonjour à toi.
Bonjour Morgane, bonjour Alain.
Thierry pourrait être qualifié de navigateur des entreprises ou d'entrepreneur au pied marin, c'est comme vous voulez. On ne s'attendrait pas toujours à ce qu'il y ait des points communs entre certaines disciplines, comme la navigation ou l'entrepreneuriat. Et pourtant, dans les deux domaines, il est pertinent d'être déterminé, organisé, pourquoi pas passionné, d'avoir du culot, d'avoir de la maîtrise de soi et de savoir mener sa barque autant que ses effectifs. Ainsi, il n'est pas surprenant pour un habitué des aventures nautiques et de la création d'entreprises ou de développement de projets d'avoir l'étoffe d'un capitaine d'équipage.
Wow, capitaine, mon capitaine, carrément. Allez, zou, on attaque au grade d'officier. Tout de suite, hop, le melon. Mais bon, c'est vrai que je pourrais moi-même qualifier Thierry de capitaine de route lors de nos périples en Joëlette. Je viens de dire nos périples en Joëlette, car pour la première fois dans cette émission, je reçois un ami. Et sache-le, Morgane, c'est compliqué d'écrire du second degré avec les potes, ça te revient vite en boomerang. Mais tu me connais, Morgane, rien ne m'arrête. Alors c'est parti et je vais tout déballer ce jour sur les relations de mon épouse avec notre invité du jour.
Alors ta formule est très très bizarre, mais si ça te rassure de parler de ton épouse à chaque fois, allez go, allons-y.
Ben quoi, Morgane, c'est pas parce que je suis deuxième classe de réserve, moi, que je suis aveugle pour autant.
Très bien Alain, mais non, ne fanfaronne pas trop quand même, mais effectivement toi tu y vois clair, c'est vrai.
Ouais, c'est ça, fais ta maline Morgane. N'empêche que je suis un peu circonspect sur les relations de mon épouse avec le chef. Parce que c'est comme ça que tout le monde appelle Thierry autour de la Joëlette. Le chef et pas capitaine. Du coup Morgane, je te laisse imaginer la hauteur de nos dialogues quand le terrain est boueux sur les trails. Il a glissé le chef, un petit bain pour le chef. Mais revenons à mon épouse qui court également autour de la Joëlette. Et par là même à cette petite ritournelle que j'entends à la maison dès que je lui propose une date de course. Attention, ce qui va suivre est un énorme numéro d'acteur, digne d'une représentation de fin d'études de l'Actor Studio. Ma chérie, tu viens courir à Épernon la semaine prochaine? Y aura Thierry autour de la Joëlette? Ben oui, peut-être. Je sais pas, ma chérie, tu sais, il est occupé, Thierry. Hein. Il a sa salle de crossfit, le karting de Chartres, la Team Progress, sa famille, son épouse, la vie, quoi. Ben oui, mais moi, s'il n'y a pas Thierry, ben j'ai pas envie. Mais mon amour, on ne court pas pour Thierry, c'est pas lui qu'on va mettre dans la Joëlette. Je l'aime bien, moi, le chef, mais c'est pas une chaise à porteur, la Joëlette. T'es bête, mon sucre? Tu imagines, si Thierry doit compter sur moi pour pousser la Joëlette, on va passer directement de la ligne de départ à l'ambulance. T'es con, mon amour, des fois. Bon, je vais prendre le « des fois » pour un compliment. Fais ça, oui. J'arrête le dialogue là. Vous avez compris l'esprit. Pas de Thierry sur les courses, pas de Cathy. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est à ce moment de mon texte qu'il faut que je vous raconte mon week-end. Si, si, Morgane, absolument. Obligatoire. Ce week-end, j'ai bêché le jardin où mon épouse plante ses légumes le printemps revenu. Et tandis que je voyais joyeusement s'ébattre ce week-end les vers de terre, je me suis répété tel un mantra, pas de Thierry sur les courses, pas de Cathy. Pas de Thierry sur les courses, pas de Cathy. Et tout à coup, alors qu'une des poules de mon épouse commençait à se passionner pour les lombrics que je dérangeais, la lumière vint à moi. Alors, c'est bien parce que dans le kart, il y a de la lumière partout. Pas de Thierry sur les courses, pas d'Alain. Pas de Thierry sur les courses, pas d'Alain. Pas d'Alain parce que c'est toi, Thierry, qui m'a donné le virus que j'ai transmis à mon épouse. C'est toi, Thierry, qui est venu même me chercher, me pousser, m'encourager, jusqu'à me proposer de partir sur le grand raid de La Réunion pour des moments de partage tellement uniques qu'on a laissé un morceau de nous-mêmes là-bas. C'est toi, surtout, qui mets toujours la valeur du collectif au-dessus de tout pour le seul plaisir de nos amis en situation de handicap. Peu importe le chronomètre et les difficultés, pourvu qu'il y ait des rires et des sourires. Pour tout ça et tant d'autres choses, mon épouse se joint à moi pour te dire « Bienvenue sur des portraits pas très carrés, Thierry !»
Thierry, rebonjour. Alors, pas trop déstabilisé par ce grand mélange dans ta présentation et tous ces qualificatifs.
Bonjour Morgane, bonjour Alain. Bah écoute, je suis très flatté. Je m'attendais à quelque chose de très lyrique de la part d'Alain, le connaissant, mais ouais, ça m'émeut beaucoup.
Ah bon, bah c'est un bon début, on espère que ce ne sont que des émotions positives.
De toute façon, on a parié qu'on ferait pleurer, donc on va y arriver à un moment ou à un autre, faut pas rêver pépère.
Tu as parié, non, moi je fais pleurer personne, jamais. Et première question, alors j'espère qu'elle ne sera pas trop sérieuse, parce que je perds souvent les invités en début d'émission, souvent. On sent que tu as donc ce côté un petit peu meneur, leader, etc. D'où ça vient? Et est-ce que tu as peut-être, je sais pas, des figures, des capitaines, des chefs de cinéma, de littérature, peu importe, qui t'ont un peu inspiré?
Pas forcément. Je me suis toujours intéressé effectivement à, un peu à tout, que ce soit dans le sport, dans l'économie, dans la culture. Voilà. Donc après, effectivement, il y a quelques héros sportifs qui m'ont motivé, pas forcément à ceux auxquels on pourrait croire, mais j'ai plutôt été entouré, voilà, de gens qui créaient, qui entreprenaient. Quand je dis création, c'est aussi dans le côté artistique, voilà. Donc ça je pense que ça a conçu ou construit ma vie.
Je t'ai composé donc oui, de vraiment beaucoup de choses en fait.
Tout à fait, et puis je pense que ma jeune enfance, le fait que très jeune je parte en internat, en pension, a fait que voilà, j'ai essayé de me raccrocher à certaines figures ou à certaines idées.
On va peut-être y revenir, oui, effectivement, après. Alain.
Oui, alors oui. Thierry, un mot. On est au karting de Chartres, karting électrique, indoor. Je pense qu'on va l'entendre dans les micros un petit peu. Alors, on est désolé, mais alors sur le tournage, de temps en temps, j'entends. Pas de panique, Thierry. Je crois qu'ils sont en train juste de défoncer le karting derrière nous. Mais sinon, tout va bien. On va avoir des sons un peu parasites, mais on le voulait pour créer l'ambiance. Et puis d'habitude, on arrive à gérer tous ces soucis de son. L'idée de créer un karting.
Alors, l'idée de créer un karting, elle est venue malheureusement à une période de ma vie où dans une autre vie, où, puisque j'ai été longtemps dans l'industrie, j'ai dû malheureusement fermer un site de production à côté de Chartres, et s'est posé la question de ce que j'allais faire après. Une fois malheureusement cette démarche, on va dire, un peu douloureuse, mais nécessaire. Et donc je me suis intéressé évidemment à la création ou la reprise d'entreprise, puisque j'avais déjà eu l'occasion de créer une salle de sport en association dans les années 2016. Et puis je m'intéressais évidemment beaucoup au sport et loisirs, et puis j'ai eu l'occasion de tester un karting électrique à côté de Nantes, qui était un des premiers en France. Et en fait, je m'étais toujours posé la question de savoir pourquoi il n'y avait pas de karting à Chartres. Alors il est vrai qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de créer des pistes extérieures pour les contraintes environnementales, de bruit, etc. Et qu'on l'apprécie ou qu'on le veuille ou non. Et donc j'en suis ressorti avec cette idée qu'il y avait un potentiel, il y avait un projet pour Chartres. Alors c'est toujours pareil, enfin, tu sais ce que c'est Alain. Quand on veut créer, quand on est porteur de projet, on sait quand on démarre un projet, on ne sait jamais si on ira au bout.
Sans blague.
Et donc voilà, ça m'a pris 4 ans voilà, pour arriver à cette réalisation. Alors non sans difficulté. Mais voilà, j'en suis très fier puisque je pense qu'aujourd'hui on peut dire, et la profession elle-même qualifie le complexe comme étant un des plus beaux de France et probablement un des plus aboutis, que ce soit en termes technologiques, d'ambiance, etc.
Parce qu'on a combien donc de cartes ici disponibles?
Alors sur le complexe, on a 21 cartes performance, donc à partir de 14 ans et 1m50. Mmh. On a 10 cartes loisirs à partir de 7 ans et 1m20. Et puis on a la particularité d'avoir un carte biplace que tu as l'occasion de tester, Morgane, il y a quelques instants. Donc un biplace électrique qui est unique au monde. Pour l'instant, on est les seuls à avoir ce type d'équipement, que ce soit en France ou à l'étranger. Et on a également un kart performance qui est équipé de commandes au volant pour justement accueillir des jeunes en situation de handicap qui peuvent quand même conduire et donc commander la vitesse et l'accélérateur au volant. Voilà.
Et j'en atteste, c'est très sympa parce qu'on peut profiter des sensations même quand on n'est pas apte à conduire tout seul un kart. Donc très très bien, j'incite tout le monde à tester. Ouais.
Alors moi, ce que je trouve bien, c'est que donc tu as pensé aux personnes de petite taille d'en dessous d'1m50. Alors pourquoi c'est bien? Parce que tout à coup, mon épouse va être moins fan de toi. Bon, allez, on parle de petite taille. On va enchaîner tout de suite avec la première rubrique, Morgane. Hein, bon, on va dire ça comme ça.
Ah, j'adore cette transition toute nouvelle. La première rubrique, c'est donc l'heure du retour en enfance. On va se replonger un peu dans ton enfance avec cette première rubrique. Mais avant de parler école, devoir, tout ça, on fait moins sérieux. On va penser à la camaraderie. Est-ce que tu avais un meilleur ami ou une meilleure amie dont tu pourrais nous parler?
Ouais, j'ai un meilleur ami qui est toujours un très bon ami, voilà, avec qui j'ai, comme je le mentionnais tout à l'heure, j'ai vécu toutes mes années de pension. Voilà, qui était avec qui j'ai partagé une chambrée et qui fait partie aujourd'hui, j'allais dire presque des seuls amis de cette période-là, puisque j'en ai perdu beaucoup de vue. Mais aujourd'hui, voilà, presque 30 ans après ou un peu plus, on est toujours amis, on se voit moins souvent, mais on a toujours plaisir à se revoir, parce qu'on a vécu des choses très personnelles, très intimes, qu'on a partagées pendant plus d'une dizaine d'années dans cet internat.
Et comment s'appelle-t-il, ce meilleur ami?
Il s'appelle Pierre-Yves Leger, il se reconnaîtra. Voilà.
Bon bah Pierre-Yves, oui, bisous alors. On fait des bisous à tout le monde ici.
C'est vrai.
Thierry, j'ai découvert un truc incroyable. Je pense qu'on n'en avait jamais parlé. En fait, on ne croirait pas comme ça, hein, mais tu es sénégalais.
Alors, ouais, on peut pas exactement dire ça, mais disons que je suis né à Dakar, voilà.
Tu y as vécu pendant 4 ans?
J'y ai vécu 5 ans, ouais, 5 ans.
Et à 18 ans, il a fallu que tu fasses un choix de nationalité quand même, c'est énorme.
Oui, entre guillemets, dans le sens où pour les, on va dire les Français d'origine, on peut choisir effectivement la nationalité sénégalaise, soit la nationalité française. Bon, après, c'est automatique si on la demande pas. Ce qui est pas vrai dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'un franco-sénégalais peut avoir la double nationalité, ce qui n'était pas le cas ou pas mon cas entre guillemets. Ouais.
Et sur ces premières années à Dakar, tu arrives à avoir encore quelques souvenirs ou tu étais vraiment trop jeune?
Non, j'ai quelques souvenirs. Alors évidemment, les photos d'époque, etc., ou les films Super 8 d'époque nous le rappellent, mais bon, j'ai quelques anecdotes puisque j'allais au jardin d'enfants, au premier niveau de maternelle sur place, et on avait du ramassage scolaire avec des combis Volkswagen, voilà, des combis vitrés Volkswagen. Et
le truc qui fait rêver tout le monde sur la terre en latérite,
qui fait rêver aujourd'hui. Et bon, ces combis, ils avaient une couleur différente, évidemment, pour qu'on puisse les reconnaître. Puis un jour, je me suis trompé. Et je me suis retrouvé dans un combi voilà, qui n'était pas celui qui devait me ramener à la maison. Et le pauvre chauffeur local bah, s'est retrouvé au bout de sa tournée de ramassage avec, avec le Thierry tout seul dans son coin. sur le port de Dakar, il ne savait plus trop quoi faire.
Il y avait un gamin en rabat.
Mais voilà, mais ça s'est bien terminé. Voilà, donc c'est des anecdotes un peu sympas. Ouais.
Et le contexte familial, ça se passait comment tes parents, comment sont-ils?
Alors, en fait, je suis né au Sénégal parce que mes grands-parents maternels ont vécu quasiment toute leur vie là-bas, ou toute leur carrière là-bas.
Ah oui, quand même.
Ouais, mon grand-père maternel était ingénieur des travaux publics, mais avant ça, il était dans l'armée française, et donc... du temps des colonies, voilà, il a dû se déplacer au Sénégal et puis il est resté sur place pour faire de la coopération. Donc il a construit pas mal de ponts, de routes sur place. Ma maman n'est pas née là-bas, elle est née en France, mais donc elle y a vécu plus d'une vingtaine d'années. Et mon papa, lui, était professeur de physique. Et il a souhaité, lui, après être diplômé, partir à l'étranger voilà, en coopérant. Donc il a fait un premier séjour au Sénégal, puis aux Antilles, puis de nouveau au Sénégal. Et c'est comme ça qu'il a rencontré ma maman.
Déjà... Très bien. Avant qu'on enchaîne sur la scolarité du jeune homme, on va reprendre ça un peu plus tard. Là. Tu vas nous raconter ce que tu as fait en quittant le Sénégal. Mais je me ferais bien un petit fan d'eux, puisque tu as attaqué tout à l'heure sur le sujet. Pourquoi pas? Non,
on regarde. Et bah pourquoi pas, oui, tout à fait. Oui, je m'attendais pas à cette rubrique, mais très bien. Alors, la partie fan 2, ça va être plus la partie admiration, tout à fait.
Admiration, musique.
Eh oui, c'est elle-même.
Moi, j'aime bien nos jingles, alors si tu veux, je les passe à volo. Allez, la Morgane. La parole est à toi, Morgane.
Tout à fait. Sur cette rubrique, donc plus sur l'admiration qu'on peut porter à des personnes. Alors, des fois, on parle d'acteurs, des fois, on parle d'écrivains, mais là, on va changer peut-être un tout petit peu, puisque le sport occupe une grande place dans ta vie. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive que tu aimerais rencontrer ou avec qui tu aimerais aller sur un événement?
Alors je l'ai déjà rencontré quand je disais que c'était pas très commun, et puis vous avez mentionné qu'effectivement je pratique la voile et notamment la planche à voile. J'ai eu la chance de rencontrer une des légendes de ce sport qui existe toujours, hein, qui s'appelle Robin Hesch. Voilà,
c'est pas vrai, oh, je suis vert. Bon, moi je mets fin à cette interview, c'est pas possible.
Trop jaloux aujourd'hui.
Il y a Robbie et les autres. Voilà.
Donc c'est pas forcément celui qui a le plus beau palmarès, parce que dans la planche à voile, c'est un Français, Antoine Albault, qui a le plus grand nombre de titres de champion du monde. Mais Robbie, c'est une légende de ce sport. Il a développé. Voilà. Et donc j'ai eu la chance de le rencontrer dans les années 90 lors d'une Coupe du Monde sur la pointe de la Torche en Bretagne. Et voilà, c'est un grand moment, et voilà, je le suis toujours. C'est un peu une idole de ce sport.
Alors, on va compléter quand même avec la tournure que normalement ça prend, parce que j'aime bien cette formulation. Robbie, c'est pas non plus un grand acteur, hein. c'est même plutôt le genre taiseux, assez volontiers. Si quelqu'un demain doit jouer le rôle de Thierry Picard, attention!
Voilà, vous
me prends pas un freluquet, tu seras absolument pas crédible. Non, je déconne.
De maison.
Pas mal. Ah, pas mal. En plus, on va pouvoir goûter quelques bouteilles de Mont Pinard. je crois que c'est une de ses spécialités.
C'est
et
divin.
Toi aussi, d'ailleurs. Donc, je pense que c'est effectivement bien choisi. Bon, on reprend. Tu quittes Dakar. Tu arrives quelque part au CP.
Alors, j'arrive. Je fais un petit passage en Sologne, dans le Cher.
Ah bah c'est quasiment à côté.
Voilà, chez mes grands-parents maternels, puisque mes parents voulaient racheter une pharmacie en France. Et donc mon papa est resté un an tout seul au Sénégal, voilà, pour essayer de gagner un peu plus d'argent, d'en mettre de côté pour pouvoir acheter cette pharmacie. Donc on était chez mes grands-parents, donc une petite année en Sologne, à Argent-sur-Saulne. Et puis une fois qu'ils ont racheté cette pharmacie à côté du Mans, au nord du Mans, à Ciel-Guillaume, voilà, on y a passé une vingtaine d'années. Voilà, dans la...
Ah, t'es devenu un Sartois.
Je suis devenu un Sartois, voilà. Où j'avais pas forcément. Alors j'avais quelques cousins dans la région, mais on n'était pas originaire du coin. C'est un peu une coïncidence, voilà. Mais on a atterri à côté du Mans, voilà, un peu par hasard, parce qu'il y avait une opportunité pour mes parents.
Donc là, t'es en primaire, c'est ça, à ce moment-là ?
J'étais en primaire, ouais, à l'école du château, l'école publique du château.
C'est de ce moment-là que date ton le copain dont tu parlais tout à l'heure ?
Non, après,
encore
ouais,
après.
D'accord. Ouais. À partir
donc,
de la sixième.
École du château, brillant élève.
Oui, assez scolaire. Enfin, de manière générale, sur toute ma scolarité, ouais, j'étais assez concentré, on va dire.
Ouais, je t'en dis pas plus, mais c'est ce qu'on m'a confirmé.
Oui,
tu
c'est
verras
ce que...
tout à l'heure.
Si, mais c'est un peu ce que j'allais dire, parce que très peu de bêtises, très
non,
sage,
pas trop, ouais.
Tout ça.
Ouais, ouais, assez sage, assez premier de la classe. Ouais.
Mm. Tu sais, pour nous, t'as un drame. Hein. Mm. C'est une catastrophe. Bon, les vacances, ça se passe où ?
Les vacances, à cet âge-là, c'est surtout en Bretagne, voilà, en Bretagne Nord, parce que c'était, on va dire, la côte la plus proche pour mes parents le week-end ou pour les vacances, puisque à l'époque, les pharmacies étaient de garde une semaine sur deux, les week-ends, etc. Donc c'est la proximité, voilà. Donc on a passé beaucoup de temps du côté de Dinard, Saint-Malo, voilà. Et puis une année sur deux, on allait souvent aussi dans les Vosges, voilà. Donc le côté randonnée, voilà, l'Alsace, les Vosges, les ballons, tout ça. Donc, j'ai passé pas mal de temps.
Si on vient en Bretagne, c'est de là que date le virus de la mer, de la voile,
non,
ou pas du tout.
Pas du tout. Le virus de la voile, il m'est venu parce qu'à Ciel-Guillaume, j'avais la chance d'avoir un grand lac, un plan d'eau intérieur. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage optimiste, hein, comme beaucoup de jeunes enfants en font. J'avais 7 ou 8 ans. Et puis ça m'a plu, puis j'en ai fait un deuxième, et puis la planche à voile arrivait en France, et puis lorsque j'ai eu 10 ans, j'ai testé, j'étais le seul mineur parmi un groupe d'adultes, alors autant dire que le matériel n'était pas du tout adapté à l'époque. Mais au bout d'une semaine, j'étais le meilleur du groupe, et donc voilà, on faisait des petites régates, etc., et bon, j'étais tout le temps devant, et donc c'est là que j'ai accroché le virus, j'ai commencé à acheter 2-3 magazines qui commençaient à arriver en France, voilà, planche mag, wind, etc. en noir et blanc, et puis voilà, c'est venu comme ça, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai essayé de mettre un peu d'argent de côté pour m'acheter mon propre matériel et puis naviguer, et puis voilà.
Tu viens de dire comment tu avais découvert ça, mais concrètement, parce que moi c'est un univers que je connais pas du tout, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a happé un peu dans l'univers de la navigation ?
Ben, c'est un sport et j'en ai testé quand même pas mal, où j'ai jamais retrouvé ces mêmes sensations en fait, d'accélération, de vitesse, de transfert de masse, de liberté aussi, parce qu'on est porté par le vent. Et je suis venu finalement à la pratique du bateau beaucoup plus tard, mais cette pratique de la voile légère, de pouvoir sauter des vagues, surfer des vagues, voilà, faire des figures, aller très très vite sur l'eau. Voilà, j'ai jamais même en testant d'autres activités nautiques, type kitesurf et autres, j'ai jamais retrouvé ces sensations-là.
Alors pour tout dire, Morgane, en plus Thierry a un fond assez méchant, parce que on partage cette même passion, avec tous les deux, avec notre joli diplôme de moniteur fédéral de voile, planche à voile. Et monsieur, dans le monde de la planche à voile, il y a des îles magiques comme Lanzarote, voilà, au bord de l'Afrique. Et monsieur t'envoie des vidéos quand toi t'es en train de te cailler les meules. L'autre il est au taquet avec son petit harnais, il pousse avec ses petites fesses un petit peu sur le bord de la planche là, et voilà. Et il te dit salut, coucou. Non, cet homme est méchant.
Non mais
c'est du vécu.
Je comprends le côté un petit peu rageant de l'histoire avec des endroits paradisiaques et en plus quelqu'un qui fait du kitesurf, plein d'activités sportives. Ça va Ça va Thierry? C'est vrai.
Ouais,
c'est
vrai. Y a pire.
Donc, le primaire, un instituteur ou une institutrice qui t'a laissé un souvenir a priori, d'après mes sources, pas spécialement.
Ouais, pas spécialement. J'ai pas forcément la mémoire des noms et j'oublie assez vite. Et donc oui, j'ai des images d'instituteurs qui m'ont un peu marqué. Vous êtes directeur d'école, mais c'est pas forcément voilà quelque chose qui me enfin je me retourne pas derrière et voilà qui me rattache à un événement particulier.
Au-delà de l'école, je te bombarde un peu de questions, mais je reviens sur des trucs justement un peu plus loisirs. Peut-être, est-ce qu'il y avait un jeu, une activité que tu aimais particulièrement enfant? Alors, tu peux me dire non, mais c'est que des fois, on a...
En primaire, j'ai pas forcément de souvenirs. C'est plutôt venu après, quand je suis rentré en 6e.
Alors, allons-y.
Oui, j'ai eu le... Donc, je suis pas resté donc au collège ou au lycée local du village. Et je suis parti dès la 6e, donc à l'âge de 10 ans, en pension au Mans, au collège Saint-Louis du Mans. Et donc, effectivement, comme j'allais dire enfermé toute la semaine. C'est là que finalement j'ai développé mon goût pour la pratique sportive et notamment le sport collectif, parce que je jouais beaucoup au hand, beaucoup au basket. Et puis derrière, je participais aussi aux équipes du collège et donc forcément à des rencontres et des championnats à l'extérieur. Voilà. Mais je dirais que voilà, au-delà du sport collectif, jouer un peu au tennis au primaire que j'ai continué après. Mais c'était pas forcément dans cette petite enfance où j'ai vraiment pratiqué beaucoup de choses.
Alors 6e, 3e du coup en internat.
6e, 3e en internat, ouais.
D'accord. C'est là que tu rencontres ton pote, cette fois-ci.
Ouais, tout à fait. Dès la 6e.
Ça crée forcément des liens. Ça arrive un peu plus tard, mais je le comprends tout à fait. Des souvenirs notoires cette fois-ci au collège hein, où tu continues à être le mec studieux qui fait du sport et tout. Enfin, nous, ça nous désespère avec Morgane une nouvelle fois.
Pas trop finalement parce que j'étais certes assez scolaire, mais j'aimais bien parler. Hein, ça doit être toujours le cas, je pense. Et effectivement, on était dans des chambrées de 3 et bon, il y avait une extinction des feux obligatoire. À 21h le soir, et bon, j'aimais bien continuer à discuter avec mon voisin de chambré. Et ça n'a duré qu'un temps, puisque j'ai été convoqué, j'ai pris ma première colle de 2 heures, voilà. Ils m'ont changé de chambre, et puis pendant quelques semaines, je me suis tenu à carreau, et puis j'ai recommencé à discuter le soir avec mon nouveau voisin de chambré, et puis j'ai été de nouveau convoqué, donc je me suis repris 3 heures de colle. Et j'ai été changé de dortoir, donc je me suis retrouvé petit 6e dans le dortoir des 3e. Donc j'étais le petit chouchou des 3e parmi ces 40 gaillards. Et puis finalement, ça s'est très bien passé. Voilà. Donc,
tu sais que c'est une bêtise qui est très mignonne quand même.
Oui, c'est assez mignon.
Tu vois, ça va, ça donne assez peu de soucis ce genre de bêtise.
Mais on avait un proviseur qui était l'ancien garde du corps du général de Gaulle. Et je peux te dire que quand tu étais convoqué dans son bureau, tu...
Voilà une belle anecdote.
C'était pas très...
un internat pas traumatisant en tout cas.
Non, c'était un collège privé, mais c'était pas trop traumatisant. J'ai des très bons souvenirs.
On saute en seconde.
En seconde, alors je suis resté au Mans, j'ai enchaîné au lycée Sainte-Croix du Mans.
Toujours en internat du coup.
Alors la première année, je suis resté dans l'internat du collège Saint-Louis. Donc je partageais toujours cette chambre avec Pierre-Yves, voilà, on était tous les deux. Et puis à partir de la première et terminale, on a pris une chambre chez l'habitant. Voilà. Donc on était toujours tous les deux, voilà, mais chez l'habitant, un peu plus proche du lycée. Pour prendre un petit peu plus notre indépendance, parce qu'on commençait à avoir un peu fait le tour de l'internat du collège.
À ce moment-là, tu voulais faire quoi et t'orienter vers quel métier?
Alors, je pense que c'était influencé par l'image que ça en donnait, mais à l'époque je voulais devenir pilote de ligne, comme je pense beaucoup, enfin toute une génération. Et donc voilà, pilote.
Bac C,
donc mathématiques et physique. Mais j'avais pas forcément une passion démesurée pour les avions. Je suis un petit peu. Mais je savais qu'il fallait être super bon en mathématiques pour poursuivre. Et c'était, malgré mon bac C, c'était pas trop mon fort.
Mais C'est marrant parce que certes, t'es pas devenu pilote d'avion, mais il y a quand même ce côté. Alors, tu t'es plus orienté vers la navigation. Mais
ah bah,
ce...
il faut qu'il soit le chef.
Ouais. Mais alors, moi, je l'aurais pas dit. Alors, toi, tu le
non,
résumes
quand même
ça. C'est
pas un but dans la vie, Alain, non plus.
Moi, je trouvais plus le côté meneur, liberté. Et Alain vient de résumer, faut qu'il soit le chef. Jalousie oblige.
Oui, bah,
non, je
bah totalement.
Le signe de la jeunesse.
Bon, c'est le moment de lancer la séance narcissique, je crois. Hein, on va faire ça comme ça.
Ah, tu as habilement lancé tout à fait cette rubrique, bon. Tout à fait.
Voilà.
Et donc, c'est que le, c'est le moment sans me vanter.
Ah oui, carrément. Hein. Ah oui, bah, on envoie du lourd sur les jingles, il n'y a pas de souci. Vas-y, je te laisse poursuivre, Morgane.
Alors, tu auras peut-être plein de questions aussi, tu enchaîneras, Alain.
Oui.
Attention. Alors, sur ce moment, sans me vanter, tu l'auras compris, il faut se faire plaisir. Hein. Là, il faut y aller, franchement. Donc, pourquoi es-tu le meilleur, Thierry ? Nous sors pas un truc trop sérieux, justement, pas lié aux cartes, pas lié à la navigation, tout ça.
Elle a changé la rubrique. Si t'avais écouté l'émission, c'est
ouais,
mort.
Ouais, j'avais raté les cette voilà dans les précédents podcasts en préparation.
Morgane, je t'adore.
Je pense que je fais preuve de détermination. Voilà. Donc en gros, plus c'est compliqué, plus c'est difficile, plus on me dit que c'est pas possible, plus on me dit que c'est fou. Bah voilà, ça me crée une motivation supplémentaire et j'essaye d'y arriver.
T'es un fonceur. En gros, plus c'est difficile, plus t'as
ouais,
envie
ouais,
de tester.
Ouais, j'ai... Alors fonceur, mais pas complètement fou non plus quand même. Ça a été le cas dans le sport. Je me suis mis tardivement à la course à pied. J'ai pratiqué un certain nombre de marathons, de trails, etc. Mais j'ai jamais été. J'ai été frôler les bordures, mais je les ai jamais dépassées. Voilà. Donc toujours en sécurité, toujours dans le contrôle et dans l'analyse. Voilà.
Ça c'est sûr. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Alors dans le sans me vanter, normalement, il y a une autre variante possible. C'est qu'est-ce que tu fais ? Tu penses mieux que les autres. Alors pas forcément. Je maîtrise les sociétés, les ceci, les cela. Je sais pas moi. Les coquillettes, le voilà. Patinage sur lac sauvage, le passage de piqué en passant d'un côté les pieds. T'es capable d'enchaîner 10 piquets, ce qui est courageux. Un pied droite à droite et l'autre à gauche, si tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas. Le truc où tu te dis, putain, quand même, ça, je maîtrise bien.
Là, tu me colles. Tu me colles.
Ton talent, mais qu'on ne connaît pas forcément. Vas-y.
Un talent méconnu.
Méconnu.
On reste dans le raisonnable. Et voilà.
Ouais, franchement, vous me prenez au dépourvu.
Et ben voilà, cet homme est tout en contrôle.
Ouais, c'est ça, ouais.
Un peu de tout, partout, bien. C'est déjà pas si mal. C'est pas grave. On va pas t'embêter plus.
Tu creuseras vite.
Exactement. On va arriver à un moment où c'est moi qui cause de tout et qu'on voit le jingle, donc comme ça c'est vachement bien et que j'adore, qui est la carte postale à Morgane. Donc un petit coup de jingle et je te retrouve tout de suite après. Alors, la carte postale à Morgane, pour ceux qui nous suivent, vous avez l'habitude, Thierry a choisi une photo. Alors, il aurait pu choisir une carte postale, une image, alors là, c'est une photo. Je sais où est prise cette photo, je comprends qu'il ait pris cette photo, il aurait pu en prendre des tas d'autres de ce moment de vie, bien entendu. Évidemment, c'était juste énormissime. Morgane ne sait pas ce que tu as choisi. Le micro est à toi.
C'est vrai que c'était... Ça a été très difficile de choisir une photo, mais pour revenir à ce que Alain disait en introduction, quand on a participé à la Dégaine des Fous, on a vécu des moments assez exceptionnels. Et donc effectivement, j'ai choisi une photo qui est issue de cette expérience. Et pour te la décrire, c'est une photo où dessus on voit sur la gauche un hélicoptère. Il y a trois personnes sur cette à droite de cet hélicoptère, il y a trois personnes sur cette photo. Il y a deux valides. Donc moi et puis un autre membre de l'équipe. Et au milieu de cette photo, il y a une jeune personne qui est en fauteuil roulant, qui s'appelle Héloïse. Et donc, à l'occasion de la diagonale, l'objectif était de faire tourner les pilotes, changer les pilotes régulièrement dans la joëlette, parce que physiquement c'était vraiment trop difficile pour eux de faire la totalité du parcours. Et donc à La Réunion, il y a des endroits qui sont particulièrement inaccessibles, notamment le cercle de Mafate. Et donc on était obligé de faire des rotations d'hélicoptères pour pouvoir emmener les pilotes sur place. Et en fait, Héloïse, la particularité d'Héloïse, c'est qu'elle ne peut pas s'exprimer. Elle est totalement handicapée. Et donc il fallait pour nous la sortir de son fauteuil pour l'installer dans l'hélicoptère. Et en fait, certes, Héloïse ne parle pas, mais tout est dans le regard. Voilà, tout est dans les yeux. Et dans les yeux de Morgane. j'ai vécu des émotions extraordinaires. Il y en a énormément. L'arrivée était quelque chose de magnifique, de magique, etc. Mais cette émotion-là que j'ai vécue, alors que j'étais pas du tout en course, j'étais pas du tout auprès de la loge aux lettres ou quoi que ce soit, c'est probablement mon meilleur souvenir de La Réunion et de la Diagonale des Fous.
Donc cette image, elle a capturé cette étape-là, c'est ça, ouais.
C'est ça. Il suffit d'un regard, voilà. Il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup. On sentait le plaisir qu'avait Héloïse de monter dans un hélicoptère. Le plaisir qu'elle avait à ce qu'on l'emmène, participer à cette course. Et quand bien même on pouvait absolument pas se parler, à se comprendre. Cette émotion dans le regard était juste extraordinaire.
Alors je vais me permettre de rajouter un petit mot sur Héloïse, parce qu'elle a quand même un parcours très particulier. Héloïse est victime d'une rupture d'anévrisme à 17 ans. C'est un moment où elle vient d'être premier prix de conservatoire de violon quand même. Et tout à coup, évidemment, sa vie bascule. Sa maman nous a suivis pendant la course. Et quand la maman d'Héloïse, à la fin de la course, en plus des sourires de sa fille pendant la course, te dis merci. En général, il n'y a pas grand chose à rajouter.
Pas grand chose à dire.
Tu réponds rien. Tu n'as même pas à dire de rien, parce que si, quand même, de quelque chose. Mais c'était juste énormissime. Et moi, je vais en profiter du coup. Parce que tout à l'heure, j'ai fait le guignol. Je t'ai déjà dit merci, mais je te le redis. Parce que c'est quand même ma plus belle expérience de vie. Et si je ne te rencontre pas, je ne la vis jamais. Voilà.
Merci, Alain.
Sur ce, avant que ce soit moi qui se mette à chialer, ce qui serait quand même un comble, tu passes le bac et tu poursuis.
Ouais, je poursuis, ouais. Alors je passe le bac C, comme je le disais, pas très bon en maths, hein, puisque j'ai une très mauvaise note au bac. Hein.
C'est pas vrai.
Si.
Attention, j'ai eu 1 au bac en maths, moi.
Ah, mais j'ai eu 5. Bon, voilà, j'ai fait un peu mieux que toi. Voilà. Donc, pour devenir pilote de ligne, je savais qu'il fallait faire maths, maths P, enfin, en tout cas, les études dans mathématiques, et c'était vraiment pas mon truc. Donc, je me suis orienté vers un IUT génie mécanique et productif. En me disant, si jamais tout se passe bien, je pourrais toujours réintégrer l'École nationale de l'aviation civile ou l'École d'Air France. Voire essayer de tenter de rentrer dans l'armée pour devenir pilote. Ou alors, si ça passe pas, à ce moment-là, je serai technicien ou autre chose. Et donc, à l'époque, quand on rentrait dans un IUT, en général, c'était pour devenir technicien, c'était pas forcément pour poursuivre ultérieurement. Et j'ai eu la chance, en fait, encore une fois, d'être dans les meilleurs de cette promo. Comme je le disais tout à l'heure, je bricolais pas mal les planches à voile. Je chépais mes planches, je touchais à l'époxy, à la fibre de verre, etc. Et il s'est avéré qu'il y avait une école d'ingénieurs à côté en plasturgie. J'ai présenté le concours et j'ai été reçu. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans les plastiques, c'est fantastique.
Le plastique, c'est fantastique. Elle me refout de bite. Vas-y, il faut citer les sources.
C'est vrai. Juste à ce moment-là, avant qu'on continue sur ton parcours, il n'y avait pas forcément de lien avec le handicap à ce moment-là de ta vie?
Alors, pas sur la période secondaire, mais par contre au collège et au primaire, j'avais un très bon copain dont la maman était directrice d'un centre de rééducation et d'accueil de personnes en situation de handicap, et qui elle-même était mariée avec un monsieur qui était fortement handicapé. Mmh. Et donc je passais mes mercredis après-midi et mes week-ends des fois à jouer avec ce copain et ses frères au milieu de toutes ces personnes. Et donc c'est ce qui m'a exposé la première fois au handicap. Et puis pendant pas mal d'années c'était juste naturel. Enfin, je faisais pas de différence, mais je cherchais pas non plus à aller au contact. Et donc pendant pas mal d'années, j'étais plus forcément très impliqué. Mais je pense que cette exposition, un peu dans la petite enfance, m'a forcément influencé plus tard.
Oui, ça joue. Mm.
Tu sors ingénieur.
Ouais.
Très bien. Tu commences à chercher du boulot, comme tout le monde. Tu en trouves même rapidement ou pas?
Oui et non, parce que en fait, j'étais quand même assez jeune. J'avais un parcours, je suis de la fin d'année, donc j'étais quand même assez jeune. Donc je me voyais pas commencer tout de suite. Puis j'avais pas forcément d'idée de ce que je voulais faire, et donc j'étais encore dans une période où on faisait son service militaire.
Et oui, mon capitaine.
Voilà, et donc comme tu l'as dit, bon, j'ai été moniteur de voile à 16 ans, donc j'ai choisi de faire mon service dans la marine nationale en tant que moniteur de voile. Tous les appelés dans le même cas choisissaient d'aller en Nouvelle-Calédonie, aux Antilles, etc. Et moi, c'était pas trop mon truc, donc j'ai choisi la Bretagne. Et donc, je me suis retrouvé à Brest, dans la Marine Nationale, où j'ai passé 10 mois fantastiques, qui m'ont permis de naviguer, de prendre le temps, forcément, et puis de d'enseigner aussi, parce qu'on enseignait aussi à des sous-officiers, des officiers ou des marins. Et puis ça m'a permis aussi de rencontrer des gens qui deviendront sportifs de haut niveau, puisque j'ai fait mon service militaire avec Sébastien Josse, qui est un skipper renommé, qui a fait le Vendée Globe, Tour du Monde de je ne sais combien de fois, qui est aujourd'hui le sparring partner d'Armel Lecléache sur Banque Populaire. Donc c'était une période assez fantastique. C'est lui qui m'a fait découvrir la voile en habitable. Et puis ça m'a permis de prendre un peu le temps de réfléchir à ce que je souhaitais faire. À cette époque-là, si tu trouvais un boulot, on pouvait raccourcir un peu le service militaire. C'était la période où on essayait de faire une transition entre les armées de métier et le service national et puis l'entreprise. Et j'avais le goût des voyages, ça avait déjà été le cas quand j'étais en IUT, et donc en école d'ingénieur, j'ai eu la chance d'aller faire mes stages à l'étranger. J'ai passé du temps en Angleterre, en Canada, etc. Et donc j'ai cherché à trouver un job plutôt avec une orientation, une connotation européenne ou internationale. Et en fait, il s'avère que Lucie, mon épouse, qui avait un peu d'avance, avait trouvé un job sur Chartres, donc je cherchais.
Que tu rencontres quand là? Parce que tout à coup, Lucille arrive. Alors, sais que Cathy est désespérée à ce moment de ton propos. Et donc, Lucille, que tu rencontres quand?
On va passer un peu.
Lucille avec un seul L. Parce que comme
ça vole mieux avec deux L, mais.
Monsieur Picard me le dit toujours.
Non, mais Lucille, je la connais depuis toujours, en fait. Parce que ses parents étaient des amis de mon père. Et donc, je la connais depuis 48 ans. Voilà. Donc on D'accord. s'est on s'est voilà on était juste amis, on s'est fréquenté quand on était plus jeune, et puis à 18 ans
le premier bisou Thierry obligatoire.
Ouais.
C'est quand le premier bisou?
C'était en février.
En février, le mec il se souvient du bois. Ouais. Ça rigole pas.
Je sais plus quelle année parce que je perds un peu le voilà.
Non, mais c'était terminale, première.
Ah non,
seconde,
c'était quand j'étais en IUT, ouais, c'était Mont-Saint-Michel sous la neige. Non, mais il y a des trucs qui marquent quand même.
Attends, t'as les mots pour décrire. Hein, bah oui. Hein.
Je veux mon neveu. Donc, je
cherche une entreprise quand même d'une certaine taille. Je voulais pas être dans l'automobile. J'étais assez attiré par l'emballage, ou le nautisme, des choses comme ça. Et puis, Lucine avait trouvé son premier boulot à Chartres. Et donc, j'ai cherché. dans la périphérie. Je suis tombé sur une entreprise qui était à Fontenay-sur-Eure, voilà, et qui m'a embauché non pas pour travailler à Fontenay-sur-Eure, mais pour m'envoyer monter une usine en Pologne, à Varsovie. Et donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire dans les premiers mois professionnels.
Et là, tu vas faire le tour de la planète. On va y revenir. Mais avant, vu que tu vas faire le tour de la planète, vu que je pense qu'on va avoir un petit peu l'occasion de parler de l'Irlande, c'est le moment de passer la chanson que tu nous as demandée. Je dois dire que je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas forcément à ça. Et puis après, je me suis dit, c'est pas bête, il y passe quand même beaucoup de temps en Irlande. Donc ça va être Molly Malone, des, alors je sais pas comment on dit, Dubliners.
Ouais, c'était les Dubliners. Ça. Ouais.
Dubliners, ouais. Ok. Et ben on se retrouve juste après la chanson, si ça veut bien partir.
Dublin's fair city, where the girls are so, I first set my eyes on sweet Molly Malone, as she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive, oh. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She was a fishmonger, and sure 'twas no wonder, for so were her father and mother. They both wheel their barrows through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels alive, alive, oh. She died of a fever, and no one could save her, and that was the end of sweet Molly Malone. But her ghost wheels her barrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive, oh. And you know, let's hear you. You can do better than that. Let's hear you now. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and mussels. Alive, alive, oh.
Thank you very much. Up the cups. Voilà, c'était Molly Malone des Dubliners. On va avoir l'occasion donc de revenir en Irlande, peut-être tout de suite ou pas. Le rapport avec l'Irlande, directement lié à cette fameuse entreprise dont on m'a donné le nom, Naipro.
Ouais, alors c'est un peu après effectivement mon passage en Pologne, qui malheureusement n'a pas duré, puisque. Voilà, l'expérience a été avortée assez rapidement, donc je suis rentré en Bourgogne au siège de l'entreprise. Et moi qui étais ingénieur, au bout d'un moment, j'avais tendance un peu à tourner en rond sur la technique et l'aspect productif. Et donc j'ai un collègue, un ami d'ailleurs depuis, mais qui était directeur export, qui a quitté à ce moment-là l'entreprise. Et comme je parlais très bien anglais, j'ai été voir... Mon patron de l'époque, un patron de cette PME, en lui demandant s'il pouvait me donner ma chance. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé sur le commercial à l'export, et puis ça a très bien marché. Et puis au bout de de quelques temps. Il avait des actionnaires banquiers dans son tour de table, donc il ne voulait plus. C'était une belle PME, mais il avait une vision à l'export. Et voilà, il considérait que pour continuer à grossir, il fallait s'associer avec un groupe d'envergure internationale. Et donc, il m'a demandé de trouver un partenaire. Et c'est à cette occasion que j'ai trouvé Nipro. Voilà. Et donc, pendant 2 ans, on a discuté d'un rapprochement avec un genre d'association là, sur les unes du groupe. Ça ne s'est pas fait. Ils ont décidé de racheter purement et simplement l'usine de Fontenay-sur-Eure. Et puis ben, dans l'équation, je devais avoir un rôle un peu intermédiaire. Et puis ben, en rachetant simplement le site de Fontenay, je retournais à mon job initial. Et là, Nipro est venu me chercher en me demandant de les rejoindre. Alors, c'est un peu délicat parce que j'avais vendu l'usine au prix fort. Et puis ce que je ne savais pas, c'est que Claude, on peut le citer, mon patron de l'époque, avait décidé finalement de transmettre la totalité de l'entreprise et de sortir progressivement. Et donc j'ai été le voir, je lui ai demandé s'il serait OK si je quittais l'entreprise. Et quelle que soit cette décision, je m'en remettrai à lui. Et puis finalement, il m'a donné un blanc-seing et j'ai quitté. Et, on a continué à travailler même en partenariat ensemble pendant un petit moment. Et puis j'ai rejoint Nipro comme ça dans les années 2000, dont le siège européen était à Dublin. Et donc ça a été mon premier contact finalement avec l'Irlande à cette époque-là. Et j'y ai fait 22 ans de carrière dans ce groupe industriel.
Donc là, tu as déjà parlé de l'Angleterre, du Canada, de la Pologne, de l'Irlande. Ça fait quoi de voyager à ce moment-là, et est-ce que tu as des appréhensions ou plutôt des motivations à chaque fois que tu bouges d'un pays à l'autre?
Bah, j'aime à dire que tous ces voyages m'ont permis d'aimer la France. Voilà.
Alors, c'est une belle formule, ça.
Dieu sait si tous les jours on râle sur tout un tas de choses. Bon, c'est propre aux Français, je pense, au côté gaulois. Mais c'est vrai que ça m'a permis de découvrir d'autres cultures et de mieux apprécier la France quand j'y revenais. Voilà. Mais j'ai toujours aimé l'anglais, j'ai eu la chance de bien m'accrocher dans mes études et puis, comme je le disais, d'aller faire des stages à l'étranger, ce qui était vraiment assez novateur à l'époque, puisque je me souviens que dans mes promos, que ce soit en IUT, en école d'ingénieur, j'étais quasiment le seul, voire le seul à partir. Et ce contact avec les autres, cet échange, m'a motivé. Il m'a motivé justement à voyager. Alors il y a beaucoup de pays où j'ai pas été, hein, mais c'est vrai que j'aime bien aller à la rencontre d'autres cultures ou d'autres nations.
Avec quand même une tendresse pour l'Irlande.
Ouais, une tendresse pour l'Irlande parce que au-delà du fait que je travaillais dans une entreprise dont le siège était en Irlande. C'est un pays que j'adore, c'est des gens vraiment adorables, hyper accueillants. Il y a un côté chaleureux, l'ambiance des pubs, la musique, le côté festif. J'ai toujours eu, par rapport à d'autres pays anglophones ou anglo-saxons, voilà, j'ai vraiment une tendance particulière pour ce pays. J'y ai passé énormément de temps, beaucoup de week-ends, des vacances, des matchs de rugby, voilà. J'en ai fait le tour je ne sais pas combien de fois. Et il s'en est fallu de plus un à un moment donné. Je pense que le Covid m'a un peu freiné à l'époque, mais pour éventuellement y acheter un pied-à-terre. Voilà.
Ça faisait partie de mes questions, donc tu viens un peu d'y répondre. J'imagine que si aujourd'hui tu n'habitais pas en France, du coup tu souhaiterais habiter en Irlande.
Ouais, je pense qu'on n'était pas loin à un moment donné. On aime beaucoup la France, on aime être proche de nos amis, de la famille, mais s'il avait fallu à un moment donné la quitter, je pense que l'Irlande avait la place numéro 1.
Thierry, j'arrive à un moment qui est un petit peu, qu'il a fallu qu'on transforme. Pour la première fois, on l'a fait comme ça. D'habitude, on a une séquence qui s'appelle « Répondra, répondra pas ». Donc, on appelle au téléphone quelqu'un, et puis il répond pas. Évidemment, tu te doutes qu'on s'arrange pour qu'il réponde. Et en l'occurrence, la personne qu'on souhaitait appeler ce matin n'était pas disponible. Voilà. Donc j'ai enregistré quelque chose avec lui hier et on va l'écouter. Il faut juste qu'on situe le contexte. Tu as travaillé sur Fontenay-sur-Eure, tu as fait toute la promotion de Naïf Pro et tu as fait quelque chose que pour rien au monde je ne souhaiterais vivre, à savoir fermer un site. Je n'en dis pas plus, on en parle juste après.
Didier, bonjour.
Bonjour.
Alors Didier, on va donner également votre nom de famille, Didier Aumont. Et vous avez une relation privilégiée avec Thierry. Est-ce que vous pouvez nous raconter en deux mots la première rencontre ?
Alors la rencontre s'est faite dans le cadre professionnel. Je connaissais donc la DRH du site Naïf Pro qui était sur Chartres. Et en fait, il y avait donc des besoins d'évolution du management, de l'ensemble de l'équipe de direction, avec donc Thierry qui était le directeur général de l'équipe de direction du site Naïf Pro Chartres. Et donc, je me suis retrouvé en contact avec Thierry pour pouvoir accompagner l'équipe de direction et puis travailler directement avec Thierry au départ. Voilà, donc je me suis retrouvé dans une relation professionnelle il y a maintenant quelques années.
Quelques années, on va les taire, ça avance toujours trop vite. Ouais. Didier, quand il nous a parlé de vous, nous a dit... Thierry, pardon. Quand il nous a parlé de vous, nous a dit, Didier, c'est un de mes mentors. Ce qui est quand même très fort, parce que je connais un peu mon Thierry. Mmh. Donc, je ne sais pas ce que vous lui avez apporté, mais qu'est-ce que vous pouvez dire de cette phrase qui, une nouvelle fois, est une phrase très forte ?
Eh bien, c'est-à-dire que Thierry était quelqu'un qui a été d'abord, quand je l'ai connu bien sûr, qui était déjà un énorme travailleur, donc avec un bosseur, avec des objectifs de performance tenus, quelqu'un qui était dans l'action. Et en fait, ce que j'ai simplement fait, c'est, on appelle ça mettre des protections et des permissions, c'est-à-dire lui donner des protections pour lui-même et lui donner des permissions pour qu'il puisse libérer un peu tout son potentiel humain, parce qu'il a d'énormes qualités et en fait ce potentiel n'était pas exploité, ou plutôt on va dire contraint par l'éducation, par le système, par plein de choses, et en fait c'était simplement une belle rencontre qui a permis de libérer un peu toute l'énergie de ce bel homme. Voilà, donc ça a été quelque chose de dynamisant pour lui, de révélateur et de très instructif pour moi. Voilà, c'était une belle rencontre.
Est-ce que vous avez conscience de ce mot qu'il utilise pour vous ? Est-ce que vous en aviez pris conscience ?
Oui, parce qu'il me l'a écrit, parce que c'est quelqu'un qui est authentique. Donc en fait, on s'écrit et on se parle vrai, donc on est comme des vrais amis maintenant. Et puis c'est quelque chose de... Oui, qu'on s'est révélé tous les deux. Donc en fait... voilà, c'est quelqu'un qui a compté pour moi. Je pense que j'ai compté pour lui. Et on a fait un bout de chemin ensemble, voilà.
Alors, je vais vous demander un dernier exercice de style particulièrement compliqué, mais pour un coach, est-ce si compliqué que ça ? Je n'en suis pas sûr. Si vous étiez avec nous au sein du kart, vous ne pouviez pas être ce matin au karting de Chartres. Si vous aviez un mot à dire à Thierry en face de vous ?
J'ai envie de dire à Thierry qu'il continue à être cette belle personne qu'il est, avec tout son potentiel, toute cette capacité à entraîner les autres cette gentillesse qui le caractérise fort. C'est quelqu'un de très sympathique, il est touchant, je trouve. C'est quelqu'un qui aime, c'est ce que je nomme une belle personne. Voilà, c'est quelqu'un qui gagne à être connu et qui ça ne m'étonne pas qu'il prenne du leadership facilement. Voilà, c'est sa caractéristique forte, c'est un leader.
Merci. Eh bien, merci Didier pour ces quelques mots. Et puis, au plaisir de se croiser très bientôt.
Pareillement. Et puis, bonne matinée avec Thierry. Et puis, toutes mes amitiés à Thierry, bien évidemment, et à sa famille. Voilà.
Ça marche. Merci beaucoup.
De rien.
Voilà, Thierry. Un mentor. Alors, moi, quand
bon, t'as gagné, Alain.
Quand Morgan m'a dit Thierry a un mentor, j'ai dit d'où tu sors ça ? Alors éventuellement j'aurais pu dire Robinet, je ne sais pas. Mais voilà, cette expérience de fermeture, ce besoin d'accompagnement?
Ouais, alors c'est arrivé un peu avant parce que me retrouvant propulsé directeur général dans un groupe américain, c'est certainement une chance que j'aurais jamais eue dans un autre groupe. Et comme l'a dit Didier, la performance, mes performances m'ont permis d'accéder à ce poste en responsabilité, mais j'étais très seul. Les Américains, des problématiques sociales, administratives, de réglementation, etc., ça leur passait un peu au-dessus de la tête, et donc j'étais vraiment très seul. J'avais hérité d'une usine qui était en vraie difficulté, avec des collaborateurs que j'avais pas forcément choisi. Alors je les connaissais parce que c'était avant tout mes collègues au départ, mais quand on se retrouve dans une fonction de direction du jour au lendemain, alors qu'on était au même niveau ou qu'on a vécu ensemble à un certain moment, c'est pas forcément très facile. Et donc j'ai eu la chance effectivement, grâce à ma DRH, de rencontrer Didier qui m'a accompagné pour m'apprendre à me positionner, à me libérer, à essayer d'équilibrer les choses entre vie professionnelle et vie privée. Et effectivement, au moment où malheureusement on a vécu cet incident et qu'on a dû fermer l'usine, ça m'a permis d'accompagner cette fermeture le mieux possible et de le vivre le mieux possible. Voilà. Donc, ça a été une très belle rencontre. Il l'a dit, il m'a libéré. Alors, le naturel revient souvent au galop, donc on essaye toujours de contrôler les choses. Mais moi, il m'a fait grandir énormément. C'est vraiment quelqu'un que j'admire. Il est ingénieur à la base aussi, mais il a fait toute une démarche de réflexion sur lui-même, de coaching, de mantra. Voilà. Il mixe tout un tas d'outils qui font qu'il essaye de faire grandir les gens, et c'était vraiment une très belle rencontre. On se voit moins maintenant parce que la vie professionnelle nous a un peu séparés, mais c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément.
C'est un beau témoignage parce qu'on parle souvent justement de comment devenir un leader, l'importance d'être un meneur, et on parle trop peu souvent de l'importance d'avoir un bras droit, ou un pilier en fait sur lequel s'appuyer, avec qui on peut construire des projets. Donc c'est super intéressant à écouter. Et juste peut-être, alors un petit mot, mais j'enchaîne très vite, mais puisque Didier parlait aussi de leadership, pour toi c'est quoi le leadership? Et le bon leadership en tout cas, c'est quoi?
Bah, c'est de ne pas être le chef, justement.
Ah, voilà. On y vient.
Donc, faut incarner. Ouais. C'est une incarnation, un leader. Donc, ça me fait doucement. Enfin, ça me fait souvent sourire quand on dit chef, mais c'est pas trop mon truc, en fait. Donc, j'aime entraîner. Voilà, j'aime entraîner les gens. Et
moins c'est ton truc, plus ça m'amuse. Hein.
Ouais, c'est vrai.
disons-le. Mm.
Mais ouais. Je t'ai coupé, excuse-moi.
Non, vas-y. Quelle est ta question, Alain? Je t'en prie.
Non, c'est Thierry que j'ai coupé, du coup. Mais, je suis d'accord.
C'est vrai que aujourd'hui, en 2023, quand on fait des formations supérieures ou non, on est plus exposé à ces méthodes de managériales, de management des ressources humaines. Le côté sociologie, psychologique, etc. Il faut se remettre dans le contexte il y a presque 30 ans. C'est pas forcément moi, en école d'ingénieur, c'est pas forcément quelque chose auquel on m'a formé. Et donc c'est par le travail effectivement que j'ai monté les échelons, mais j'avais pas eu forcément les bases nécessaires pour justement manager et l'idée des collaborateurs ou une entreprise. Donc de ce point de vue-là, Didier m'a énormément fait grandir et m'a accompagné.
J'ai une mauvaise nouvelle, les enfants. J'annonce la dernière rubrique. Voilà.
Nous y sommes déjà.
Alors, ce qui n'est pas drôle, c'est que Thierry, il a écouté les émissions d'avant. Mais bon, c'est pas grave. Donc, à mon avis, il a préparé son coup. Morgane, je te laisse expliquer ce qui va se passer sur le prochain jingle.
Oui, du coup, ça ne va pas du tout surprendre Thierry, mais tant pis, on peut pas surprendre tout le temps. La dernière rubrique, c'est en fait le moment des 30 secondes, le fameux. Donc, tu vas avoir 30 secondes pour réfléchir à un mot qui définit ta carrière ou qui te définit. Mais pendant ces 30 secondes-là, nous, comme d'habitude, bah, on va discuter avec Alain.
Voilà, on papote et t'as pas le droit avant la fin du générique.
C'est ça.
Allez, à tout de suite. Bon, eh ben écoute Morgane, c'était sympa. Bon, peut-être un petit peu bruyant. Je sens que notre technicien du son va bien se marrer pour faire le montage. Ça va être top de retirer les bruits parasites.
Alors, les freinages de cartes.
Là, je pense qu'on a bien compris qu'on était dans un kart. Hein. Y a pas de...
Mais c'est pour de vrai. On est dans les conditions réelles,
voilà,
c'est ça.
Exactement. Moi, j'ai pas eu le temps d'avoir froid.
Non, franchement,
on en
ça
est
va.
Déjà à 1h05. J'ai pas vu le temps passer.
Oui, déjà.
Comme... Bah oui, comme d'hab.
Très, très rapide.
Voilà.
Ça y est, c'est déjà...
Picard, c'est à vous de causer.
Bah, je dirais entreprenant.
Entreprenant.
Mais en tout bien, tout honneur.
Oui,
on n'avait pas pensé à autre chose de toute façon, donc c'est parfait. Entreprenant, personne ne nous l'a dit non plus, ça encore, je crois. Entreprenant.
Non, mais personne ne pensait à mon épouse avant. Allez, je l'aurais remis. Cathy, je t'aime. Entreprenant, bon, ça me semble bien. Alors, ça me semble bien, sauf que la mauvaise nouvelle, c'est qu'après la dernière rubrique, Thierry, on en arrive.
Ah oui, bah ça y est. Hein.
Générique de fin. Voilà. Donc, il va nous rester 2015 pour te remercier, pour ton accueil, pour tout ce que tu fais en général. On n'a pas spécialement reparlé du Team Progress, de la Joëlette, de ceci, de ça. Alors, on pourrait parler de plein de choses, mais il faudrait faire 5h50 d'émission. Et la production a dit que c'est pas possible. Elle est terrible, la production. Morgane, tu veux ajouter un petit mot avant qu'on laisse le mot de la fin à Thierry ?
Oui, et ben encore une fois, merci beaucoup Thierry. C'était passionnant, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de volets à apporter, ce qui fait qu'il y avait plein de questions sur ce nouveau numéro des Portraits pas très carrés. Mais merci, et merci pour le tour de karting également. Et c'est à toi. On te laisse la parole peut-être aussi pour la fin de cette émission si tu as quelque chose à nous dire.
Merci Morgane, merci Alain. Moi, j'étais ravi de te faire découvrir ces sensations dans ce kart de place. C'était une première aussi pour moi avec une personne malvoyante. Voilà, c'est un pari réussi. Et puis si on m'avait dit il y a 4 ans que je ferais un plateau télé au milieu d'un karting à Chartres, je pense que j'aurais pas forcément mis un centime dessus. Donc,
ça
voilà,
semblait alors, improbable.
C'était un très beau moment et je vous en remercie.
Très bien. Alors, on se quitte traditionnellement avec des petits bisous en langue des signes. Ah oui, t'as entendu l'émission, mais tu ne l'as pas vue.
Ah non, je ne l'ai pas vue, non.
Puisque tu vas faire partie des premières émissions, on va voir. Donc, tu regardes la caméra et des petits bisous en langue des signes.
Attention.
Voilà. Et on vous quitte là-dessus.
C'est comme ceci.
On vous fait des gros bisous.
On fait des gros bisous.